Et une militante de lutte ouvrière depuis 35 ans, devenue porte-parole d'Alat Legui en 2007, avant de devenir à son tour candidate et de faire campagne pour la troisième fois en 2022, professeure agrégée d'économie et de gestion de son État, en grève en 2003 pour sa première apparition télé.
Je vais partir à la retraite au-delà de 2020, donc il faudra que je cotise jusqu'à 68 ans puisque j'ai commencé à travailler à 26 ans et je partirai avec 38% de mon salaire net.
Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir alors que vous êtes candidate à l'élection présidentielle sans avoir aucune envie de vous asseoir dans le fauteuil présidentiel et sans ou presque espoir de gagner, à tel point que début février, vous avez pris congé de vos élèves du lycée Le Corbusier à Aubervilliers en leur disant qu'il y avait un risque que vous ne reveniez pas le 11 avril, mais un risque limité. Et ça les a amusés.
Maîtrisé. Un risque maîtrisé, en effet.
Maîtrisé à quel point? Ça, vous êtes à peu près sûr le 11 avril de reprendre vos cours?
Oui, écoutez, je suis assez consciente que je représente un courant minoritaire, voilà, que je suis en effet très à contre-courant aujourd'hui. Mais moi, je suis fière de dire qu'il faut renverser cette société capitaliste qui nous plonge dans la misère, les inégalités, la crise climatique et maintenant les guerres. Voilà, donc je pense que l'urgence est de plus en plus grande. Voilà, minoritaire à contre-courant, mais je ne cesserai de dire que ça devient urgent.
Ça n'use pas les convictions d'être à contre-courant depuis 35 ans ?
Non, écoutez, moi, c'est la société actuelle qui quand même a de quoi... A de quoi révolter, a de quoi user. Écoutez, qui peut prétendre aujourd'hui qu'on va vers la prospérité, la paix, l'harmonie entre les peuples, que finalement on va résoudre tous les fléaux là qui sont en face de nous? On voit que on s'enfonce. Moi, ce qui me frappe, c'est que bon, il y a eu le krach financier en 2008. Là, on sort. Enfin, je ne sais pas, d'une crise sanitaire, on n'est pas sûr d'en sortir. Et krach, on plonge dans une guerre dont on sait où elle a commencé. Mais qui peut dire jusqu'où elle ira, cette guerre? Et moi, je pense qu'en effet, les conséquences vont être graves, graves, sur le terrain politique, mais aussi sur le terrain économique et social. Donc on rentre pour moi dans une période, une nouvelle période, très, très, très dure, très, très dure. Et comme à chaque fois dans ces périodes de crise, qui est-ce que l'on fait payer? Ben, c'est le monde du travail, c'est les classes populaires. Parce qu'il n'y a pas de doute. Hein. La grande bourgeoisie, on va l'aider. On va l'aider pour que son business continue.
Je vous ai entendu à plusieurs reprises ces dernières semaines sur la guerre en Ukraine et je n'ai pas bien compris le rapport que vous faites entre la guerre et le capitalisme.
Ben, pourtant, c'est un rapport évident. C'est un rapport évident. Vladimir Poutine a fait le dernier pas vers la guerre fratricide. Il a une responsabilité écrasante, évidente. Mais c'est un bras de fer qui se déroule depuis déjà des décennies et un bras de fer qui se déroule entre la bureaucratie russe et entre les États-Unis, l'OTAN et le camp impérialiste qui a une volonté expansionniste à l'Est, qui a poussé ses bases militaires et qui, en effet, cherche à étendre...
Vous décrivez un affrontement de puissance, mais le rapport avec le capitalisme...
C'est pas... Mais l'impérialisme, qu'est-ce que c'est? C'est
lequel? Le russe ou l'américain?
L'ordre impérialiste dans lequel nous vivons, c'est précisément une planète qui est dominée par les trusts capitalistes, mais qui sont concentrés à un point que prenez les trusts de l'énergie, ils sont combien? Une vingtaine de par le monde. Donc c'est en effet un ordre impérialiste où finalement ces entreprises qui se concurrencent, qui cherchent toujours à aller plus loin, à se piquer des parts de marché, etc., eh bien poussent à la rivalité entre nations. Et ça, c'est... Bon, là, ça se décline en Russie. Mais écoutez, moi, ça fait plusieurs mois, c'était la Chine. Alors, c'était tous les jours qu'il y avait une espèce d'ambiance, là, guerrière, qui montait contre la Chine.
Oui, d'accord.
Mais tout se tend. Tout est en train de se tendre. Voilà. Et moi, je suis frappée par l'accélération de cette course à l'armement. Et tout le monde applaudit. Hein. Alors, tout le monde est en train de se réarmer. Vraiment. Et tout le monde applaudit. Alors, on parlait de la planification écologique il y a quelques mois. Maintenant, on parle de la planification pour se réarmer. Enfin, franchement, voilà. Voilà où va la société. Il faut quand même le regarder en face. Ils préparent les futures guerres. Nos dirigeants, les états-majors,
voilà, il s'agit de se réarmer pour essayer d'arrêter celle-ci. Hein.
Eh bien, moi, je crois qu'on ne l'arrêtera sûrement pas comme ça. En tout cas, c'est ni Macron, ni Biden, ni ces grandes puissances qui sont précisément les fauteurs de guerre, ceux qui ont une part de responsabilité dans cette guerre, qui pourront l'arrêter. Ceux qui pourront l'arrêter,
pas Poutine.
C'est tous ceux qui la... Mais Poutine aussi. Bien sûr, Poutine aussi. J'ai aucune complaisance vis-à-vis de Poutine. C'est pas moi qui l'ai accueilli à Versailles, hein, qui lui ai déroulé le tapis rouge. Hein. Et c'est pas moi qui lui ai vendu des armes, qui lui a livré des armes jusqu'en 2020. Parce que vous savez, comme moi, que la France a continué de livrer des armes à la Russie entre 2015 et 2020, alors même qu'il y avait un embargo sur les armes, alors même qu'il y avait cette guerre dans le Donbass. La guerre dans le Donbass, elle a démarré en 2014. Elle a fait 14 000 morts. Elle était déjà là, la guerre, en fait. Bah, elle s'est généralisée. Moi, ce que je pense, c'est que ceux qui l'arrêteront, cette guerre, c'est ceux qui la subissent. C'est ceux qui n'y sont pour rien, justement, qui ne l'ont pas voulu, cette guerre. Je pense au peuple russe, je pense aux travailleuses et aux travailleurs de Russie, je pense à ceux en Ukraine qui, évidemment, ne veulent pas de ce bain de sang. Parce que ils savent que ce sont deux peuples frères, c'est ça, la vérité.
Vous restez avec nous pour la chronique média, la story média de Mohamed Bouafsi. Avec cette question ce soir, Mohamed, et si les meilleurs intervieweurs politiques avaient entre 8 et 12 ans ?
En tout cas, c'est l'une des questions de la présidentielle de 2017 avec une émission, l'émission Au Tableau, qui avait réuni 1 300 000 Français qui s'étaient attachés aux petits écoliers d'Au Tableau. Bon, en tout cas, des enfants qui sont capables de poser des questions très dérangeantes et notamment aux candidats communistes à l'élection présidentielle. Alors, Fabien Roussel, Joseph Staline, camarade ou pas camarade ?
D'un côté, il a participé à la libération de l'Europe et de l'autre, il a été responsable de millions de morts dans son pays avec la création des goulags. Donc, je ne sais pas comment on peut faire. Vous voyez, c'est pas... Je sais pas où le mettre.
Mais, camarade ou pas camarade.
Qu'est-ce qu'on retient de lui? On retient de lui quoi? Le général qui a fait...
Et oui, les enfants ont plus retenu les millions de morts que plutôt le fait de libérer l'Europe. Camarade ou pas camarade?
Ah non, pas camarade.
Pas camarade, hein, on est d'accord. Chez les trotskistes, on n'est pas camarade.
Pas camarade. Je vous ferai remarquer, vous savez qu'on parle beaucoup de l'indépendance de l'Ukraine. Oui. C'est précisément les révolutionnaires en 1918 qui l'ont accordé, l'indépendance de l'Ukraine. Parce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça veut dire quelque chose pour les révolutionnaires. En tout cas, pour moi, ça veut dire quelque chose. Mais je pense aussi que se libérer véritablement, ce sera supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme. Quand on arrêtera avec cette société qui a qu'une seule boussole, c'est la soif du profit. Voilà. Donc je pense que ce sera la véritable émancipation et la libération, non seulement des peuples, mais de chaque individu et des travailleurs.
On rappelle qu'Au Tableau, c'est demain gratuitement sur MyCanal et dimanche soir sur C8. Alors vous êtes professeur, comme Babette le disait il y a quelques minutes. Alors vous avez dû sans doute avoir des questions embarrassantes en classe. Ça a été parfois le cas sur votre vie privée ?
Sur ma vie privée ?
Oui.
Non, pas vraiment.
Alors, je vais me comporter comme un enfant, hein, puisque je vais parler de votre vie privée. Vous avez expliqué que vous ne parliez jamais de votre vie privée, sauf si cela avait un sens politique. Alors, vous avez confié vivre en union libre. Le candidat Macron propose de revoir la fiscalité des concubins et ces couples qui sont ni mariés ni paxés. Ça leur permettra de faire une déclaration commune et donc de réduire leur montant de leur impôt sur le revenu. Cette mesure, elle peut vous intéresser, vous personnellement, et ces millions de Français pour augmenter leur pouvoir d'achat ?
Non, alors pour augmenter mon pouvoir d'achat, moi je pense plus que je suis plus aux grèves, vous voyez, voilà, aux grèves, aux manifestations. Je pense que c'est bien plus efficace qu'attendre n'importe quelle promesse, surtout ces promesses-là. Si j'ai envie de dire une chose à ceux qui nous écoutent, aux travailleuses, aux travailleurs qui nous écoutent, c'est ne croyez pas dans les promesses que les uns et les autres sont en train de dispenser. Là, on est en période électorale, hein, et la réalité, c'est que dès que le président s'installera dans le fauteuil, bah, il y aura plein de choses qui seront plus possibles, parce que ça sera la crise, comme d'habitude. Donc voilà, il faut se préparer à relever ses manches et à se bagarrer, à se rassembler.
Normalement, les jours de grève, on n'est pas payé. Hein. Vous dites que c'est une mesure pour le pouvoir d'achat.
Oui, mais les grèves permettent d'arracher un certain nombre d'avancées, oui. Figurez-vous. Et ce que j'espère, c'est que justement, ça empêchera le recul de l'âge de la retraite et un certain nombre d'attaques. En tout cas, c'est comme ça qu'on changera les choses, j'en suis convaincue.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir accepté notre invitation.